guérit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Un peu mystérieux, voilà, un peu mystique. Et on se demande ce que ça veut dire. Alors je vous invite à suivre avec moi en Jean, l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 21. Jean chapitre 5, les versets 1 à 21, je lirai à partir du verset 1er. Jean 5. Après cela, ah bien, j'ai même affiché le texte, encore mieux, si ça marche. Aïe, aïe, il y a toujours un petit problème. Ah, super, merci. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Elle possède 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient l'agitation de l'eau, car, à certains moments, l'ange du Seigneur descendait dans la piscine, l'eau s'agitait, et le premier qui y entrait après que l'eau avait bouillonné était guéri, quelle que fût sa maladie. Et il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et apprenant qu'il était là, qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter, et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Aussi les Juifs dirent-ils à celui qui venait d'être guéri « C'est le sabbat !» Il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. Mais il leur répliqua, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Ils l'interrogèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas, car Jésus s'était éloigné de la foule qui se trouvait en ce lieu. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà bien portant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Quelle histoire! Je ne sais pas si vous l'avez relu récemment ou si des fois vous y pensez à cette histoire de l'ange qui vient agiter l'eau. Et ça m'a intrigué cette semaine. Et puis c'est un passage d'autant plus interpellant pour nous protestants parce qu'on est presque dans le domaine du rite ou du protocole. Et allez! On s'approche presque, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est presque un peu magique. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la foi. Il ne s'agit pas de grandir dans la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de se repentir de ses péchés. Il ne s'agit pas d'avoir plus de foi. Quiconque est le premier dans le bain à l'heure du jacuzzi est guéri. Pas de prérequis, pas de conditions. Et peut-être que c'est ça aussi qui nous confronte à la grâce. Parce que normalement, on dit, oulala, on va prier pour toi, mais on va t'expliquer des tas de choses. Ben là, il n'y a aucune explication. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est quoi le message? Où est la pédagogie divine dans le fait que l'eau s'agite et que le premier dans l'eau est guéri? Quel est le message? Et évidemment, plus le passage est mystérieux, plus on trouve des interprétations, en veux-tu, en voilà. On trouve de tout. Et pour ne pas se perdre, il va nous falloir nous rattacher à l'histoire d'Israël. Pour bien comprendre ce passage, il faut voir en quoi il s'inscrit dans l'histoire du peuple juif, parce que Bethesda, vous avez compris, ça ne se trouve pas en Belgique, ça se trouve en Israël, et on a un signe qui a lieu sur la terre d'Israël, un signe qui doit bien indiquer quelque chose. Mais quoi ? Vous savez, dans la Bible, les anges sont souvent des anges annonciateurs. Ils disent quelque chose, ils annoncent quelque chose et ils le font par des signes. Et à ce moment-là, Jésus passe, il va guérir cet homme et ça va provoquer toute une controverse avec les Juifs. Et on verra d'ailleurs les premières menaces de mort, hein, parce que vous avez vu, ils ne lui disent pas « on n'est pas d'accord », ils lui disent « attention, hein, tu risques d'y passer ». Donc on a aussi la violence dans ce passage, la violence de ces pharisiens. Alors, je ne sais pas comment vous comprenez ce type de passage, mais je vais faire plusieurs remarques que je livre à votre réflexion pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et la première remarque que je ferai, c'est que ce n'est pas l'eau qui guérit dans ce passage. Ce n'est pas l'eau qui va guérir la personne. Si on regarde bien, si c'était l'eau, eh ben elle ne perdrait pas son pouvoir au bout d'un moment. En tout cas, ce n'est pas lorsque l'eau est agitée. Finalement, c'est plutôt quand l'ange est là. Quand l'ange vient un peu mettre ses pieds ou ses mains dans l'eau, je ne sais pas comment il fait, que là, il aura le pouvoir de guérison pour une personne. Donc ce n'est pas l'eau qui guérit, mais plutôt celui qui va la faire bouger. Et ce n'est que si l'ange vient et qu'il fait savoir qu'il est là en faisant agiter l'eau que la guérison sera automatique, comme j'ai dit, sans prérequis, sans rien du tout. Il n'y a pas d'histoire de pardon des péchés, il n'y a pas d'histoire de savoir plus de choses sur Dieu. C'est ça qui est un peu étrange. Et d'ailleurs, en grec, le mot ne parle pas tant d'agiter, mais de bouillonner. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui barbote les pieds dans l'eau, c'est le bouillonnement d'une eau qui chauffe. Et c'est d'autant plus troublant parce que l'eau bouillonne en elle-même, alors qu'on peut agiter l'eau par l'extérieur. Et vous savez, d'ailleurs, dans ce passage, ça a tellement intrigué les gens que l'eau bouillonne et que l'ange vienne, que certaines églises, dans les premiers siècles, feront des baptistères avec des systèmes d'alimentation sous pression pour avoir de l'eau qui bouillonne. Bon, ils ont peut-être aussi pensé au baptême et aux gens qui sont baptisés dans l'eau froide, parce que je sais qu'il y en a qui sont passés ici se faire baptiser et diront « mais c'est mieux de l'eau chaude ». Hein, je ne citerai personne, mais je le comprends. Mais tout ça pour dire que c'est un passage qui a marqué son époque, puisqu'on fera des systèmes de baptistères avec des systèmes d'alimentation sous pression pour avoir une eau bouillonnante, une eau chaude. Mais la première remarque, ce n'est pas l'eau qui guérit. La deuxième remarque, c'est que dans la tradition, on dit que l'ange vient une fois dans l'année. Et on dirait qu'il vient presque au même moment, si on regarde la tradition un peu des pères de l'Église, quand on fouille à ce niveau-là. Mais le texte ne précise pas quand l'ange venait. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est une fois ou plusieurs fois. C'était quelque part imprévisible. Et ça enlève un peu l'aspect rituel, du coup. Parce qu'il vient quand il veut, il est libre. Il viendra quand il veut pour se baigner. Et là, il y a un aspect qui nous échappe. Quelque chose qui est hors de notre contrôle et qui casse un peu l'aspect rituel ou magique de ce passage. On ne sait pas quand l'ange vient, parce qu'il est libre comme Dieu est libre. Donc ça, c'était ma deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que le jour où Jésus arrive près de cette piscine où il y a les foules autour, c'est le jour du sabbat. Alors, on ne peut pas rester toute l'année autour d'une piscine, à moins que vous ayez l'argent et que vous alliez au Club Med. Mais là, on ne peut pas rester toute l'année. Mais en tout cas, le jour du sabbat, il y avait une foule autour de ce bassin. Alors pourquoi ? Alors ça, c'est moi qui interprète, ce n'est pas écrit, mais je pense que l'ange avait déjà dû venir le jour du sabbat. Parce que là, il y a vraiment une foule énorme. Alors je spécule, hein, mais j'imagine que si tout le monde vient ce jour-là, c'est qu'on a dû se dire « Ouh là là, la dernière fois au sabbat, il était là, donc je vais être le premier autour de la piscine, et puis dès que ça bouillonne, j'y vais. » Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le jour du sabbat que Jésus vient au bord de cette piscine et l'ange, comme Jésus, n'a aucun problème à venir guérir le jour du sabbat. Ce que les pharisiens et les scribes, ce que toute l'institution juive de l'époque critiquait sévèrement, c'est que ce jour-là, on ne fait pas ça. Ce n'est pas juste la question de porter hein, son lit, hein, c'est qu'il dit non, tu ne viens pas dans les synagogues guérir ou faire des choses ce jour-là, parce que pour eux, c'était dans leur compréhension du sabbat, c'était interdit. Mais pour l'ange ou pour Jésus, pas de souci. Donc l'ange et Jésus étaient un peu moins religieux que, que les autorités de l'époque. Mais voilà, en tout cas, probablement que les scribes et les pharisiens se méprenaient, hein, tous les docteurs de la loi, hein, tous ces gens-là se méprenaient sur la compréhension même du sabbat, parce que même l'ange et même Jésus vont interpeller les juifs le jour du sabbat avec des guérisons. Et là, où il y a une guérison d'un homme qui est paralytique depuis 38 ans, 38 ans, c'est long, hein, 38 ans de souffrance. Et ce qui est fou, c'est que cet homme est guéri et qu'on va quand même embêter ce gars. Ça fait 38 ans qu'il est paralytique, il se lève, il marche, on dit « Oui, mais t'as pas le droit de faire ça. » Attends, c'est déjà sympa, il marche, réjouis-toi, c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas l'embêter ? Oh là là, c'est incroyable, franchement. Il ne savait pas ce que c'était d'être paralytique. Et au lieu de fêter sa guérison, eh bien, il était déjà sur le grill de l'inquisition des pharisiens, comme Jésus d'ailleurs, qui sera menacé de mort. Et ça nous pose au passage la question de savoir, mais est-ce que le sabbat est fait pour l'homme ou l'homme pour le sabbat ? Est-ce que la loi nous rend esclaves ou est-ce qu'elle nous libère ? Est-ce qu'on est au service de la loi ou est-ce que la loi est à notre service ? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule. Il y a un homme qui est paralytique pendant 38 ans, il est guéri, on vient l'embêter. Voilà, ça s'appelle le légalisme. Ça s'appelle vraiment la loi pour la loi, alors que la loi libère. Quatrième remarque, c'est un lien que vont faire les pères de l'Église. J'étais un peu sceptique au début, mais c'est une piste qui est vraiment intéressante. C'est que certains commentateurs dans l'histoire ont fait un lien entre l'eau de Bethesda et l'eau du baptême chrétien. Alors pourquoi ils ont fait ce lien-là ? Parce que l'eau du baptême, comme l'eau de Bethesda, apporte une transformation à une seule personne, à un instant T, pour une transformation unique. Et aussi parce que dans les deux cas, ce n'est pas tant l'eau qui est importante, mais celui qui va la sanctifier, que ce soit l'ange pour la piscine ou le Christ pour l'eau du baptême. Donc il y en a certains qui font ce lien-là, je trouvais ça intéressant. Et il y a Tertullien notamment, un des pères, qui dira que c'est même un lien entre l'eau du baptême, l'eau de la piscine de Bethesda et même l'eau de la mer Rouge, hein, où les Hébreux sont sortis d'Égypte et puis sont passés par cette eau. Parce que pour lui, toutes les eaux avant le baptême sont des préfigurations des ombres, comme des maquettes de l'eau du baptême. Et si l'eau par laquelle les Hébreux sont passés quand ils sont sortis d'Égypte a pu apporter un secours aux Hébreux, et si l'eau de la piscine de Bethesda a pu guérir des gens, eh bien, elles ne sont que des eaux qui préfigurent une eau qui est encore plus édifiante. Ce sont les eaux du baptême. Et puis c'est l'apôtre Pierre, notamment, qui dira dans son épître que l'eau de la mer rouge s'apparente à l'eau du baptême. Bah, il dira d'ailleurs que c'était même un baptême. En ce qu'elle sauve, mais c'était une eau qui est juste une préfiguration, une maquette de l'eau du baptême. Donc voilà la quatrième remarque. Mais je ferai une cinquième remarque. Je ne sais pas si c'est clair pour l'instant. La cinquième remarque que je ferai, c'est que le paralytique ici n'est pas guéri par l'eau. Jésus ne le pousse pas dans l'eau, vous avez remarqué ? Il y a toute la foule autour de la piscine. Et c'est cette même foule, probablement, bon, je spécule encore, mais qu'on retrouvera autour de Jésus plus tard, puisque ce sont des gens qui ont besoin de guérison, et il va guérir énormément de monde. Et ce qui m'amène à dire que finalement, ce n'est plus cette eau qui guérira les gens, mais c'est Jésus. Ça veut dire que quelque part, le bouillonnement de cette eau n'est plus utile. L'ange venait à certains moments, mais voici l'arrivée de Jésus, et on sent qu'il y a un changement d'air, ERE, dans l'histoire, parce que si la guérison venait par ce type de manifestation un peu ponctuelle et hasardeuse, eh bien maintenant ça se passera par la manifestation du Fils de Dieu dans la personne de Jésus. Et on garde l'idée que, si vous voulez, avant c'était l'ange qui venait guérir de temps en temps quelqu'un, mais il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a quelque chose qui s'accomplit en Jésus. On sent que l'ange, il venait faire ça, mais il y a quelqu'un qui vient faire autre chose et qui va l'accomplir encore plus. On sent la fin d'une ère, si vous voulez. C'est comme la fin de l'ère de la loi. Il y avait des fêtes à certains moments, il y avait des rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer, comme le rendez-vous avec l'ange. Et puis on sent que ça s'accomplit, que le Christ vient et que c'est lui maintenant qui va accomplir toutes ces choses. Et c'est vraiment dans le déroulement de l'histoire biblique, on passe d'une ère à une autre. Et l'ange qui venait à certains moments, il était limité dans l'espace, il était limité dans le temps. Et voici le Fils de Dieu qui va montrer une toute autre dynamique et qui va ouvrir même le salut aux nations et à quiconque veut recevoir la guérison, ce qui va complètement bouleverser cette nouvelle dimension, cette nouvelle ère du salut en Jésus-Christ. Et on voit la différence, ce changement, parce que l'ange venait toucher l'eau et quelqu'un était guéri, mais il ne guérissait pas l'âme, a priori. On parle de guérison physique, mais où est la vie éternelle? Où est le pardon des péchés? Où est la révélation de Dieu? Le fait de grandir dans la connaissance, de le connaître. On ne sent pas tout ça dans cet épisode de l'ange, mais on le sent avec Jésus qui vient accomplir une guérison qui a un autre sens et qui apporte le salut. Je vais citer un autre père de l'Église, Ambroise de Milan, qui le disait comme ceci, toujours dans la perspective de cette eau du bassin de Bethesda qui préfigure une eau du baptême qui sera encore plus forte. Ambroise disait ceci, « À cette époque-là, en figure, alors là on parle de notre passage, hein, celui qui descendait le premier était seul guéri. Combien plus grande est la grâce de l'Église où sont sauvés tous ceux qui descendent ?» Alors quand il dit qu'ils descendent, c'est parce qu'on descendait dans la piscine, hein, mais dans les eaux après du baptême. Jadis, quand un homme était descendu dans l'eau, donc de Bethesda, la puissance du remède était épuisée. C'était une personne et puis c'était fini. Mais à l'avènement du Seigneur, il n'en est plus de même. Le premier qui descend dans la piscine des eaux du baptême n'est pas seul guéri. Quand il y en aurait 10 000, 100 000, une multitude innombrable, quand toute la terre descendrait dans la piscine, la grâce ne serait pas diminuée. Elle resterait la même et aussi puissante. Je trouve que c'est bien dit et que c'est juste. Ce qui nous amène à nous poser la question, pourquoi l'ange fait-il bouillonner l'eau? Pourquoi il fait ça? Eh bien, je pense qu'il était en train d'annoncer quelque chose, c'est un peu le boulot des anges, hein, sur leur fiche de poste, c'est souvent ça, et il annonçait quelque chose, et ce quelque chose, il l'annonçait par une guérison, et on est dans l'espérance, dans l'attente du Messie. Et cette attente messianique, en Israël, qui était là, qui était fort, hein, parce qu'on est au 1er siècle, on est entouré par l'Empire romain qui nous oppresse, on aimerait se libérer, et on attend cet ange qui nous annoncerait la venue du Messie. Et si vous regardez en Ésaïe 5,9, on parle de l'ange du Grand Conseil, ou encore de l'ange annonciateur, en Ésaïe 9,5, l'ange annonciateur qui viendrait et qui annoncerait celui qui incarnerait le Christ, que quelque chose allait se passer, quelque chose de plus grand. Et que ce bain dans la piscine de Bethesda annonce en fait, par cet ange, l'arrivée de celui qui devait sauver Israël. Mais l'ange de Bethesda n'est pas le seul à annoncer le Christ par un bain rituel. Il y a aussi Jean-Baptiste qui lui baptisait, hein, le prophète Jean-Baptiste qui baptisait. Et pourquoi il baptisait Jean-Baptiste? Pour aplanir le chemin du Seigneur. En traduction, je baptise tous ceux qui passent parce que je sais que parmi ceux qui seront baptisés, je trouverai le Messie. Et lui aussi, par son bain rituel, par son baptême, il annonçait l'arrivée de quelqu'un qui viendrait et qui serait le Christ. Donc vous voyez, il y avait le bain de Bethesda, par un ange annonçait l'arrivée du Messie comme le bain de Jean-Baptiste, si je peux dire, son baptême annonçait lui aussi l'arrivée du Messie, j'aplanis son sentier. Et l'ange faisait pareil à Bethesda probablement, ça annonçait quelque chose en Israël, qu'un sauveur viendrait. Et puis, une autre confirmation de cette attente messianique dans ce passage se trouve dans les propos du paralytique, parce que cet homme s'attendait à quelqu'un, et si vous regardez dans ce passage, il dit « Seigneur, je n'ai personne ». Et en grec, littéralement, il est dit « Seigneur, je n'ai pas d'homme ». Et ça, « je n'ai pas d'homme », c'est une attente messianique typique. Parce qu'en Ésaïe 19-20, il est écrit « Le Seigneur enverra un homme pour les sauver ».« Seigneur, je n'ai pas d'homme, le Seigneur t'enverra un homme pour te sauver ». Vous voyez toute la beauté de cette parole de cet homme paralytique qui attend cet homme cet ange qui vient l'annoncer et cet homme. J'enverrai un homme, il y a un ange annonciateur et puis il y a un homme qui viendra vous sauver. Et cette attente de l'homme dans la mentalité des prophètes, en particulier dans le livre d'Ésaïe, c'est vraiment typique de l'attente du Messie d'Israël. Je vais citer encore un père de l'Église, j'en cite quelques-uns ce matin. Cyril de Jérusalem dira ceci au sujet du paralytique, mais c'est une parole que chacun peut prendre pour soi. Tout seul abandonné, il a eu pour l'aider le Fils unique de Dieu. Parce que tu n'as personne, celui qui pour toi s'est fait homme te guérit. Je vais reciter Cyril de Jérusalem. Tout seul abandonné, donc ce paralytique, il a eu pour l'aider le Fils unique de Dieu. Et après il nous parle à nous. Parce que tu n'as personne, celui qui pour toi s'est fait homme te guérit. Et quelque part, on a tous été cet homme sur le bord de la piscine. Et on pouvait s'attendre à un ange. Mais cet ange, il ne pardonnait pas les péchés. On pouvait s'attendre à un ange, mais il ne donnait pas la vie éternelle. Mais peut-être que sans le savoir, au bord de cette piscine, on attendait Dieu et qu'il est venu nous surprendre. Et on a cette eau de la piscine, ou cette eau du baptême dans l'image, qui dépasse nos attentes. Cette eau de ce bain de Bethesda qui vient provoquer un peu les Juifs dans leur compréhension de la loi, de la grâce. Et on a cette eau de la piscine qui vient annoncer un ange et l'arrivée du Messie. L'aspiration à voir enfin le Messie d'Israël venir. Alors voilà un passage qui semble mystérieux, mais qui prend son sens dans l'annonce, dans l'attente d'Israël de son Messie par un ange annonciateur, par un rite qui implique un bain d'eau, comme pour le baptême de Jean-Baptiste ou comme pour la piscine de Bethesda. Et je dirais qu'on a tous besoin de cet homme Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, on s'attend des fois à un ange, plus qu'à Dieu. Parce que c'est sympa un ange quand même, c'est beau, c'est avoir de la lumière, tout ce que vous voulez. Mais si on s'attend à un ange, Dieu est là. Peut-être qu'aujourd'hui on s'attend à un rite, mais Dieu est là. Et peut-être qu'aujourd'hui on s'attend à la visite inattendue d'un ange ou d'un être, mais Dieu est là. Et le message de ce passage, c'est ben, vous n'avez plus besoin d'attendre. Eux, ils attendaient l'ange une fois dans l'année ou je ne sais pas combien. Puis le Messie est venu, vous n'attendez plus, vous n'avez plus à attendre. Votre Messie. Il n'y a plus de loi à accomplir, Dieu est là. Il n'y a plus une fête liturgique à attendre dans l'année, Dieu est là. Et il fut un temps où on languissait l'arrivée de cet homme Dieu, avant de cet ange, mais maintenant il est là, et la question c'est qu'est-ce qu'on attend pour lui parler ? Qu'est-ce qu'on attend pour cultiver notre relation avec lui ? Et on peut attendre beaucoup de choses dans la vie, je crois que c'est peut-être le cœur du message, on peut attendre beaucoup de choses dans la vie, des projets, des attentes de prière, peut-être des prophéties qui doivent se réaliser ou je ne sais quoi, mais on ne peut pas attendre le Messie, il est là. C'est ça le message. Eux, ils attendaient, ils étaient au bord de la piscine, et peut-être que s'il n'était pas encore là, on serait au bord de la piscine, ou peut-être cet été, certains y sont allés. Mais Dieu est là. Dieu est là. C'est extraordinaire. Alors, j'ai pas de mots de conclusion. Les mots de conclusion que je vais prendre, je les prends encore d'un des pères, parce qu'il parle bien, qui est une invitation à connaître le Christ personnellement, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour d'autres, à continuer à cheminer avec le mystère de celui qui s'est incarné. Et je vais citer Grégoire de Nazianze. Hier, tu gisais sur un lit, languissant et abattu, et tu n'avais pas d'homme pour te jeter dans la piscine quand l'eau s'agiterait. Aujourd'hui, tu as trouvé un homme qui est aussi Dieu, ou plutôt un Dieu-homme. J'aimerais juste la reciter pour qu'on puisse se l'approprier et se dire, quand je suis chez moi, où que je sois, je n'ai plus à l'attendre, il est là. Hier, tu gisais sur un lit, languissant et abattu, et tu n'avais pas d'homme pour te jeter dans la piscine quand l'eau s'agiterait. Aujourd'hui, tu as trouvé un homme qui est aussi Dieu, ou plutôt un homme-Dieu. Et j'en ai terminé. J'aimerais juste qu'on prenne un temps de prière ensemble pour méditer là-dessus. Vous pouvez rester assis. Hein. Seigneur, merci parce que il fut un temps où on t'attendait, mais on ne peut plus t'attendre, tu es là. Et on peut attendre beaucoup de choses, comme on l'a dit, mais tu es là. Et on veut cultiver ça. Tu es notre bien le plus précieux. Père, tu nous as envoyé ton Fils, et c'est extraordinaire. Ce n'est pas un ange qui vient de temps en temps, il est toujours là. Ce n'est pas un ange qui guérit une fois, il guérit toujours. Ce n'est pas un ange qui se cache, mais qui se montre, qui se révèle, qui aspire à nous connaître, à chercher et à gagner notre amitié de tous les jours. Et Jésus, on veut vraiment te dire, oui, tu es là, et prends encore plus de place dans notre quotidien, prends encore plus de place dans nos familles. On ne veut pas avoir de crainte pour nos familles parce que tu es là, on n'a plus à t'attendre, Jésus. Tu es là au milieu de nous, et si on languissait, et si on peut-être on se languit de beaucoup de choses, on peut sourire et se réjouir parce qu'on ne se languit pas de te voir parce que tu es parmi nous. Seigneur, je prie que tu nous renouvelles spirituellement, renouvelle notre corps, nos pensées. Fais-nous du bien, guéris nos corps, renouvelle-nous. Sois béni, Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous souhaite un excellent dimanche.